Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où vous tombez sur nous. C'est Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit qui commence dans un instant. Je suis Nicolas. Il y a Faruco Platine et Maxime qui va se joindre à nous. Hélène aussi, qui va être en entrevue. Alors, cette semaine, en marge du mois de l'histoire des Noirs, une émission où on va s'entretenir, en fait, essentiellement avec des militants et des militantes qui sont noirs à Québec. On va voir qu'est-ce que ça implique. Et c'est ça. On a voulu avoir, indépendamment de l'histoire, un point de vue local, contemporain, radical sur ces questions-là. Donc voilà, on commence en musique avec quoi?
On s'en va avec du Facoli, avec la toune gauche-droite.
Ouais, gauche-droite. Alimentez votre cynisme.
Ça fait le tour, ça tourne, mais le pouvoir tourne. Pendant que le peuple souffre, le pouvoir tourne. Ça fait le tour, ça tourne, mais il se souffre.
Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, quasi d'autres choses. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose.
Et ça recommence. Toujours le même récital, c'est comme les chaises musicales. Ils dansent avec nous, et nous on danse avec les loups. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne, chacun à son tour.
Aïe, c'est gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, quasi autre chose. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose.
Lorsqu'ils ne sont plus aux affaires, ils veulent tout refaire.
Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, quasi d'autres choses. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, c'est la même chose.
Si l'on ne fait rien, il y aura toujours des vauriens. Les militaires à la porte du pouvoir ne feront plus leur devoir. Ça sera un pas en avant, deux pas en arrière. Ça fait le tour, ça tourne, ça tourne. Le pouvoir tourne. Les peuples souffrent. Le pouvoir tourne. Il perd son souffle.
Aïe, c'est gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, quasi d'autres choses. Gauche, droite, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre cause. Gauche, droite, c'est la même chose. Gauche, droite, quasi d'autres choses. Gauche, pour changer les choses. Gauche, droite, on a notre dose.
De retour à Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Donc voilà, fin février, en marge du mois de l'histoire des Noirs, les auditeurs, les auditrices de la station doivent être quand même passablement au courant, étant donné que CKIA a participé à plusieurs activités, mis beaucoup d'énergie sur le mois de l'histoire des Noirs, notamment avec des panels, discussions, je me souviens pas si c'est les mardis ou les mercredis par contre, en tout cas bon, des panels et des discussions en ondes sur tout plein d'aspects de la question.
Ils ont aussi fait leur émission live, il me semble que c'était en honneur au mois, l'émission là, qu'ils faisaient au Café Babylon.
Ouais, c'est ça, quatre émissions spéciales là.
C'était les mercredis.
C'était les mercredis.
Juste avant nous,
oui, j'ai même enregistré la pub pour cette émission-là, mais bon, écoutez, l'enregistrement de la pub et le souvenir de
ce que
c'est après. Non, c'est ça, pas sur cette machine, sur cette station. Donc voilà, nous, à votre fait, on a voulu aussi, tant qu'à faire aussi, en parler puis et souligner, on s'est dit, bon, faire de quoi en marge de ça pour aborder certaines questions. Puis c'est ça, on a voulu voir en fait avoir des points de vue locaux et contemporains et aussi surtout radicaux libertaires sur la question, savoir qu'est-ce que ça veut dire à Québec en fait être noir, qu'est-ce que ça veut dire le mois de l'histoire des noirs, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et ben d'abord on est allé chercher Hélène Nazon et qu'on a eu souvent à l'émission pour différents trucs là, que ce soit avec le chapeau.
Elle nous a déjà sauvé.
Oui, elle nous a déjà sauvé, elle a même déjà fait les tables en quelques reprises, metteuse en onde hors pair. Hélène qu'on est allé voir avec Jasmine, en fait on a une entrevue avec Hélène et Jasmine sur ces questions-là, et c'est ce qu'on va mettre à l'instant. C'est une entrevue en différé. On va revenir avec Maxime Fortin. Toi, quand on parle du mois de l'histoire des noirs, est-ce que c'est quelque chose qui vient te...
Non, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Quand, tu sais, je le dirais en deux temps. Un, je sais que ça peut être un effort de conscientisation, à un moment où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme plus de la vague réformiste, là, puis je dis pas ça de manière condescendante, mais tu sais, comme un peu plus, c'est ça, c'est du monde qui sont plus qui croient à la représentation dans les institutions, etc. Quoique, de toute façon, les conférences, c'est pas juste là-dessus. Il y a des trucs plus culturels, comme entre autres, Webster a fait une conférence à Garneau sur le hip-hop. Bon, donc, je pense que c'est un moment. En tout cas, je pense que les personnes qui sont derrière cette organisation-là visent une conscientisation. Mais c'est clair que moi, un mois de l'histoire des Noirs, surtout comme par hasard, c'est le mois le plus court de l'année, je trouve ça comme... C'est ça. C'est pas quelque chose qui m'interpelle. Tu sais, je participe pas vraiment aux activités. Moi, il y a quelque chose de clairement, ben justement, qui va pas à la racine des choses, dans le sens que plutôt que de penser l'histoire puis d'intégrer dans l'histoire avec un grand H, toute la part que peut avoir des communautés racisées, qu'un mois à part, justement, moi, ça me montre bien que ça reste, que la réflexion reste quand même en chemin.
Tu parles de communautés racisées, ouais, justement, comment est-ce qu'on aborde ça, la communauté noire ou les communautés noires? De quoi il faudrait parler, en fait?
Ben, de quoi qu'il faudrait parler? Moi, je pense qu'il faudrait commencer par parler de la construction des Amériques, de la construction des États-Unis du Canada qui s'est faite sur l'esclavage noir, puis moi je vois plus largement là, t'sais, comme sur l'esclavage noir, mais aussi sur le génocide des Autochtones, de voir que s'il y a eu autant de profits, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait exploiter à quelque part, donc de, t'sais, de questionner dans le fond un peu la perspective de l'immigrant. En fait, c'est ça, moi je le pense beaucoup avec une philosophie comme anti-frontière, que je pourrais dire.
T'employes le terme communauté racisée?
Oui. Et moi, pourquoi j'emploie communauté racisée, c'était plus par rapport, dans le fond, t'es racisé par quelqu'un,
c'est pas dans le sens-là.
C'est comme ce qu'on aussi, c'est plutôt que, parce que le concept même de race, il est beaucoup questionné, fait que la manière que des groupes comme Personnes Inégales, par exemple, ont trouvé de naviguer là-dedans, c'est de parler de communautés qui sont racisées, donc t'es racisé par quelqu'un, mais t'es pas d'une race ou d'une autre, tu sais. Fait que oui, une communauté noire, je pense qu'il y a une communauté noire qui existe, mais je pense que la communauté noire, particulièrement à Québec, en tout cas, comme dans toute communauté, est traversée par des différences de classe sociale, par des différences d'appartenance idéologique. Donc, moi, j'ai pas une appartenance à la communauté noire à Québec. C'est sûr que moi, je viens d'un milieu bourgeois, j'ai côtoyé essentiellement des Blancs, donc tu sais, ça c'est vraiment ma position personnelle, individuelle. C'est ce que je connais, moi, de la communauté noire qui est active à Québec, c'est ça, c'est une diaspora haïtienne à Québec. Moi, je suis d'origine haïtienne, donc c'est une diaspora d'origine haïtienne qui a son opinion sur ce qui devrait se faire en Haïti, qui, tous les dimanches, réinvente ce qui devrait se faire en Haïti, mais dans le fond, on est assis à Québec. Fait que moi, je me sens pas une grosse appartenance à la communauté noire à Québec. Je pense que ça peut être différent, par exemple, à Montréal. Ou je pense même que ça peut être différent à Québec, mais c'est comme moi, je suis pas en contact avec des personnes de gauche progressiste qui appartiennent vraiment à tout le monde.
Et moi, je me demandais, toi, t'as grandi à Québec. Et comment c'est de grandir à Québec comme jeune femme noire? Premièrement, est-ce que c'est quelque chose de différent? Est-ce que ça amène comment ça se dit finalement aujourd'hui, pas il y a 300 ans.
Comment ça se dit aujourd'hui? Ben moi je te dirais que encore une fois, je le ramène que c'est pas juste à être noir, que c'est lié aussi à la classe sociale, parce que moi, tu sais, si je compare avec Myrlande d'Hermès, entre autres, tu sais, qu'on connaît, qui était une militante bien connue, qui est décédée, j'ai souvent discuté avec elle, puis Myrlande, elle, était beaucoup plus noire que moi. Je suis là. En partant, tu sais, je me fais un peu plus dans la masse. A. B. Moi, j'ai un milieu vraiment favorisé. Tu sais, j'étais allée au privé quand j'étais jeune. Donc, tu sais, j'ai vraiment eu le modèle d'intégration dont rêvent tous les parents haïtiens bourgeois. J'allais à l'école privée.
C'est, pour faire une bonne
c'est ça, exactement. J'allais à l'école privée, je suis des cours de piano, toute l'éducation bourgeoise, je l'ai eue, ce qui m'a permis une intégration. Mes parents ont voulu que j'aille au privé, on m'a payé mes études à l'université parce que dans le fond, pour eux, c'était important de m'armer contre le monde extérieur. Je pense que c'était vraiment ça leur vision. Que eux, ils ont beaucoup souffert du racisme en arrivant au Québec, même si ma mère est médecin, mon père est ingénieur, même si, tu sais, il y avait les clés pour être dans le STEM, il demeure que eux, ils se disaient pour pas que, faut que notre fille, elle soit, tu sais, le mieux armée possible pour pouvoir se défendre dans le monde extérieur. Fait que moi, je te dirais que j'ai pas vécu du racisme comme Irlande ne peut en vivre. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé très rarement. Jamais quotidiennement. Puis je prends Myrlande, mais ça prend d'autres personnes. C'est juste pour comparer. Parce que j'ai l'impression que mon itinéraire à moi n'est peut-être pas représentatif d'être noir, de vivre comme noir. Mais pour moi, ça s'est bien passé. Je te dirais que justement, vu que j'étais une blanchesse, vu que j'étais élevée pas mal comme une blanche, ben, conclusion, j'ai pas. C'est quand j'ai commencé à militer. Que j'ai commencé à avoir un éveil plus de. J'ai mis pour noir masque blanc, transparent, puis je me suis rendu compte que de mon aliénation, entre guillemets. Puis, c'est ça. Il y a comme une déconstruction qui a commencé à se faire de voir, ah ouais, comment ça se fait. Donc, ma grand-mère, elle aimait ça que j'ai les cheveux droits, pas les cheveux crépus, ben, parce que je ressemblais plus à une blanche. Tout ce travail-là, je l'ai fait quand j'ai commencé à militer, un peu avant. Puis je continue à le faire, à me déblanchiser tranquillement, pas vite, sans renier ce que j'ai, tu sais, c'est ça, avec l'avenue de Chantilly à Chemin à Québec, tout ça, c'est comme revisiter, moi, dans le fond, je le fais à rebours, fait que je suis d'autant plus critique, du moins, l'histoire des Noirs, parce que moi, je trouve que, tu sais, moi-même, tu sais, tu sais pas par essence que c'est les Noirs qui ont fait. Je le sais pas plus, je le savais pas plus que toi, ou peut-être même que toi, tu le savais plus que moi, à un moment donné. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose, pas parce que t'es noir que tu sais ce que les noirs ont fait, bien au contraire. Puis je pense que c'est super pertinent que les noirs et les blancs, puis en fait, que qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu ça, moi, mon parcours. Fait que j'ai pas vécu beaucoup de racisme, mais en même temps, je pense que j'ai vécu de. J'étais heureuse, j'ai pas été malheureuse, mais je pense que j'étais vraiment aliénée, tu sais.
Ben justement, tu ramenais le processus de politisation, de conscientisation qui est important là-dedans. Comme militante féministe, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte?
Mm-hmm. Ben, moi, en tout cas, comme militante féministe, qu'est-ce que ça m'apporte de plus en plus, vu que justement, en militant, j'ai plus. Je me suis intéressée à la part des féministes dans le fond de couleur, ça se dit mal en français, là, des. Comme Audrey Lorde, comme Belle Hook, la part des femmes dans les Black Panthers, qui même pas juste les Black Panthers, dans les communautés noires en général, la place des femmes comme vraiment comme pillées de la communauté noire, mais avec ce que ça a permis aussi puis de pesant pour elles, mais comment les femmes, tu sais, avec des programmes sociaux, que ce soit les petits déjeuners, tu sais, comment elles étaient au centre des communautés, fait que comme ils tentent, qu'est-ce que ça m'amène, moi, comme perspective? C'est sûr que c'est dur à actualiser à Québec dans la pratique, dans le sens je me vois mal fonder en ce moment, en tout cas, je vois pas une militante autour de moi pour fonder un collectif féministe juste black, supposons. Puis j'en verrais pas la pertinence de toute façon à Québec, t'sais, dans le milieu qu'on est. Sauf que ce que ça m'amène comme perspective, c'est vraiment plus, encore dans mon travail de déconstruction, de voir à quel point ça n'a pas changé tant que ça. Qui parle dans les organisations féministes? Ben, c'est des femmes blanches, de classe moyenne, essentiellement quand même, on ne se le cachera pas, dans les organisations féministes, grandes organisations. puis le point de vue, c'est comme tout ce qui est arrivé autour des accommodements raisonnables, là, il y a vraiment eu un discours impérial, féministe blanc, nous, de parler au nom des femmes racisées, justement, ou des femmes qui portent le voile. Puis à Montréal, ça a été beaucoup plus dénoncé, je pense, parce qu'il y a beaucoup plus de militantes qui sont pas blanches, qui sont racisées justement à Montréal, puis il y a eu une déclaration...
Les organisations autonomes aussi.
Exactement. Puis il y a eu une déclaration de, des femmes de No One's Illegal pour dénoncer le discours de la FFQ, pour dénoncer, tu sais, le discours de féministes qui prenaient la parole pour dire, tu sais, qui victimisaient, dans le fond, les femmes immigrantes pour dire que leur culture était rétrograde, etc. Puis moi, ça m'a beaucoup inspirée, parce que je me suis dit, tu sais, c'est ça, dans le fond, on est vraiment encore là.
Au niveau des perspectives libertaires, il y a dans le mouvement marxiste nord-américain, il y a toute une réappropriation de l'anarchiste de couleur, effectivement, ça se dit mal en français, qui va chercher des perspectives anticoloniales, qui va chercher différentes choses, puis bon, là-dedans, il y a comme il y en a pour
les fins et les fous.
C'est ça.
Des discours plus essentialistes, avec lesquels je suis d'accord, mais il y en a qui sont plus intéressants, qui ramènent ça à la question sociale.
C'est ça, ben, y a-t-il des trucs intéressants là-dedans qui existent, là?
Moi, je pense que oui, parce que je pense que tout comme c'est pertinent qu'il y ait des groupes féministes non mixtes, donc, tu sais, je pense que c'est pertinent qu'il puisse y avoir des groupes non mixtes sur la base racisée, ou sur la base raciale, en tout cas, peu importe, tu comprends ce que je veux dire, donc des groupes, parce que je pense que c'est nécessaire, d'un point de vue stratégique, de travailler, si t'es féministe, avec les gars. La même chose pour les communautés racisées, mais je pense que c'est pertinent aussi qu'il y ait un espace où est-ce que c'est pas... où est-ce que ça va de soi? Où est-ce que, dans le fond, c'est un vieux principe là, qui est utilisé en éducation populaire, la question de l'autonomie, la décision, dans le fond, de t'organiser sur une base affinitaire avec des personnes qui vivent dans la même oppression que toi, c'est qu'ils sont dans la même position que toi, puis comme ça, t'as pas à te battre pour ramener des... T'sais, pour amener une analyse, pour expliquer comment t'es opprimé ou quoi, ou ça te place dans une position victimisante, même si tu veux pas le faire. Ce qui se passe souvent, comme quand on est dans des collectifs mixtes, qu'on s'organise, des fois, comme en tant que femme, faut ramener l'analyse, puis des fois, ça devient tannant. Je pense qu'il faut continuer à le faire, mais je pense que les deux espaces sont super pertinents. Moi, je pense qu'il y a des expériences militantes super pertinentes en non-mixité. Là, moi, je pense que c'est le retour entre la non-mixité et la mixité qui est pertinent pour les groupes mixtes aussi, où est-ce qu'il va y avoir des personnes justement qui ont développé leur analyse, fait qu'ils sont pas dans un rapport de confronter puis de dire tous les blancs sont méchants parce que justement ils ont pensé leur analyse qui est plus utile que ça, mais parce qu'ils ont eu un espace non mixte pour en discuter puis partager le vécu puis arriver à d'autres choses. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je pense vraiment qu'il peut avoir des éléments intéressants là-dedans parce que ça nous ramène à la critique de tantôt aussi des organisations où est-ce que ça demeure les mêmes personnes qui prennent la parole. Ben, d'où l'importance d'avoir d'autres organisations où est-ce que c'est d'autres personnes qui prennent la parole parce que c'est là qu'elles apprennent à s'exprimer, à se rendre compte qu'elles sont capables de le faire, à développer leur analyse. Tu sais, il y a comme tout, tu sais, ça enlève ça. Moi, je pense que c'est super pertinent. C'est super nécessaire.
On a Jasmine qui participe beaucoup à notre conversation. J'ai quasiment envie de te demander comme mère, mais. Je sais pas si t'as envie de répondre
ben oui,
à ça.
Ben oui, mais comme mère, ça me questionne. Comme mère, je suis en apprentissage complet et total, tu sais, par rapport à ça. Vraiment, comme tout parent qui milite, je pense, je vais voir avec le... Tu sais, je vais voir ce qui va se passer, mais c'est sûr que pour l'instant, en tout cas, elle est franchement blanche. Sa mère est noire, son père est blanc. Ben noir, en fait, je peux pas... Je joue l'âtre, clairement, puis je pense que ça joue, là, dans comment je peux vivre le racisme, comment les gens me voient, là. Tu sais, je suis pas... noir d'ébène, j'ai quasiment l'air bronzé.
Ben, c'est toujours dans le regard de l'autre. C'est,
exact, c'est... ça se construit. Hein?
Puis sinon, indépendamment de l'histoire, là, si on se projette en avant, dans quelle direction tu penses que les mouvements de Québec devraient développer sur ces questions-là? Qu'est-ce que tu penses qui serait intéressant ou pertinent?
Ben moi, je pense que ce qui serait intéressant ou pertinent, c'est qu'ils commencent par avoir plus de militants, pas blancs, puis c'est pas juste dans le milieu libertaire, là, dans le milieu communautaire
en
aussi,
général.
En général, tu sais, je me demande, puis ça me questionne au bout, tu sais, où ils sont, puis des fois, je me questionne, je me demande, est-ce que c'est à cause de ma position, ben mon ancienne position privilégiée, tu sais, que j'ai été en contact, c'est-tu pour ça que je suis devenue militante, puis que j'ai... parce que je vois
c'est
pas. C'est ça, c'est à cause de l'université, parce qu'en tout cas, moi j'en vois pas autour de moi. Là, on est quatre à Québec, tu sais. Mm. Fait que ça me questionne beaucoup. Je sais pas comment qu'on peut faire. Est-ce que c'est sur des enjeux spécifiques, sur des luttes qu'on pourrait rassembler d'autres personnes? Mais c'est clair que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Je me demande. Puis, c'est ça, c'est bien poche comme réponse, mais où sont si ça serait ça, je pense pas que c'est sur une barre, parce que l'analyse théorique, je pense que pas mal les gens ont cette conscience-là, puis c'est clair que je pense pas que c'est par le mouvement antifasciste blanc dans les rues que ça rassemble des personnes migrantes. Ça les tasse pas, mais tu sais, moi je pense pas que ça va être ça la voix, si je peux me permettre un commentaire. J'ai pas dit que c'était pas pertinent d'avoir des groupes antifa.
Ben j'espère.
C'est bon. Pour
savoir. Ben merci.
Super. It's a long, long night tonight. I feel it just a little worse. Feel just a little worse today.
Touristes américains, comme vous les décrivez, là, les espèces de gros colons que vous pensez qu'ils vont arriver ici. Moi, je suis un gars de Québec, puis j'avoue, la fête, allez-vous me crisser patience puis rester chez vous?
C'est un show à touristes.
Mais non, vous êtes dans le champ, vous êtes déjà dans le champ, M. Bourgeois, ben parce
non,
que... commencez pas, là, M. Bourgeois, là, parce que t'en es plus. Laissez-moi parler un peu, c'est pas un monologue, votre affaire, OK? Vous commencez très mal, là.
Okay.
Moi, j'ai jamais rien vu lever de comme ça depuis que je milite l'indépendance du Québec, depuis 1996. Les gens sont en beau maudit.
Je vous demande de rester chez vous, moi, quand ça va avoir lieu, cette reconstitution.
Mais restez pas chez nous, parce que chez nous, c'est aussi Québec. Puis l'histoire, les événements de 1759, ça appartient pas à la ville de Québec.
Ouais, après, chez vous, votre désobéissance civile.
Mais attention, vous présentez Joseph Vermeer comme la louve des SS honnêtes, hein, là?
Non, 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 mais c'est elle qui dit l'ordre, c'est l'ordre, puis c'est l'ordre.
Non, mais elle a raison. Mais elle a raison, M. Bourgeois. Voulez-vous vivre dans un pays anarchique? Est-ce que le pays du Québec auquel vous rêvez, c'est un pays anarchique où il n'y a pas d'ordre?
On est rendu minoritaire, les francophones de langue maternelle.
Ouais, c'est quoi? On les mettra toujours bien pas dehors. Les anglophones, c'est eux autres qui amènent l'argent puis qui amènent les capitaux.
C'est quoi le discours qu'on tient en choix? Anti-syndical, bon, à un moment donné, ça te dit, bon, ben, le français, c'est-tu vraiment important, là?
Ben, attends, non,
on pouvait parler en anglais, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça.
Jamais dit ça.
Ça peut, l'État québécois, hein, là, on veut toujours moins d'État, moins d'intervention.
Ben oui,
qu'on
oui.
Veut.
C'est j'espère, ça. J'espère. On démantèlerait le Québec, ça veut dire.
On a trop d'État pour aller dans l'arbre, fait que là, j'ai
René Lévesque l'avait dit, l'État québécois était notre plus formidable rempart, le plus grand parmi nous, puis bon, ben, vous voulez le démanteler.
Ben, j'espère qu'on va le démanteler.
Pour être capable de faire perdurer notre spécificité en Amérique.
Arrêtez-le, arrêtez-le.
Voilà.
Marielle Lise Filon.
Mais ce qu'on voit le plus souvent au niveau du nouvel ordre mondial, et ce qui est très dangereux, c'est finalement que ce nouvel ordre mondial veut, parce qu'il y a une volonté, disons, de contrôler le comportement et de contrôler la pensée des gens.
Les idées révolutionnaires vous semblent du chinois? On a peut-être quelque chose pour vous. Le collectif anarchiste La Nuit présente Communiste Libertaire de Cossé, un projet pour la révolution. Une présentation de la plateforme et de l'UCL dans le cadre des Mardis de l'anarchie. Mardi le 24 mars à 19h au Café Bar La JT, 251 Dorchester.
Indigne de galant, la révolution n'est pas indigne de galant. Elle est au bout, elle est au bout.
Donc, de retour à Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. On vient d'entendre les porte-paroles populistes. Alors, c'est notre chronique hebdomadaire. On a un saint homme dans le collectif qui écoute la radio pour savoir qu'est-ce qui se dit et qui nous sort des moments juteux. C'est François.
Qui a du cœur au ventre.
Il a du cœur au ventre, certain. Donc, voilà. Ben, présentement, je suis avec Maxime. Donc, bonjour.
Salut.
Et on va continuer sur notre thématique qu'on a commencé avec Hélène en première partie d'émission. Donc, en marge du mois de l'histoire des Noirs, comme je le disais tout à l'heure, on a voulu aller plus loin que l'histoire et le témoignage et essayer de voir, aller chercher des perspectives locales, contemporaines et radicales sur ces thématiques-là à Québec. Et donc, c'est ça, on s'est entretenu avec Lane Nazon, maintenant on va s'entretenir avec Maxime Fortin, qui tantôt, on demandait à Hélène, on disait, bon, t'as grandi à Québec, qu'est-ce que c'est? Maxime, lui, a grandi en région.
Oui, à Alma, au Lac-Saint-Jean, malgré le fait que je suis né à Montréal, mais j'ai passé les 20 premières années de ma vie à Alma, au Lac-Saint-Jean.
Donc ça doit être somme toute quelque chose. Ben, avant d'arriver là-dessus, toi, le mois de l'histoire des Noirs, comment tu vois ça, en fait?
Je suis assez partagé. Quand j'étais plus jeune, j'étais très, très enthousiaste face à cette idée-là parce que quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'histoire des Noirs, l'histoire des peuples noirs, je trouvais qu'il y avait à peu près aucune vitrine pour parler de l'histoire des Noirs. Que tout ce qu'on apprenait des Noirs, c'était via la colonisation des Blancs au 19e siècle. Donc, tu avais l'impression que dans l'histoire mondiale, l'histoire des gens de couleur noire commençait quand les Blancs les avaient soumis et exploités. Donc, au début, j'étais assez enthousiaste face à l'idée qu'il y ait un mois pour parler de l'histoire des Noirs. Maintenant, quand je vois que c'est un peu une façon de souligner la culture des Noirs dans le beau patrimoine mondial et rien d'autre, je trouve que ça a il y a un côté subversif un peu qui est absent. Il y a une critique qui est pas là, qui est absente, puis ça fait en sorte que mon enthousiasme est un peu retombé, même si j'ai rien contre l'idée en soi.
Et est-ce qu'il y a des gens qui pourraient ou qui se sont déjà organisés pour amener une perspective subversive là-dedans, ou...
Je sais pas honnêtement. Je pense que l'idée, c'est beaucoup plus de souligner la contribution des Noirs.
Ce qui est donner des modèles positifs.
Ouais, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, mais je pense que d'un côté, il est très très important de souligner la contribution des Noirs, mais il est aussi très très important de rappeler les crimes et les injustices que les Noirs ont subis durant l'histoire. Et c'est important de pas voir ça comme une espèce de passé lointain qui a pas de conséquences sur le présent. La domination des pays riches, les pays blancs sur les pays de l'hémisphère sud, sur les pays des gens de couleur, ben c'est en bonne partie relié à l'esclavage, relié à la domination impérialiste des siècles antérieurs. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé là longtemps et qu'on commémore chaque année, là.
C'est quelque chose qui se continue.
Oui, c'est une domination qui est maintenue indirectement, mais c'est une domination qui existe encore, là.
Souvent, quand on aborde les questions, bon, que ce soit les questions du féminisme ou les questions de l'antiracisme ou les questions progressistes en général, notamment dans la région de Québec où on a un climat un peu particulier au niveau politique, disons, on a notre propre microclimat, on revient avec, on dit, bon... Oui, effectivement, la situation des femmes au Moyen-Orient. Oui, effectivement, la situation des Noirs en Haïti. Oui, effectivement, ce qui peut se passer. L'exploitation, ça existe ailleurs. Et ces situations-là existent ailleurs. Et justement, bon, indépendamment de ça, indépendamment de l'histoire, indépendamment de ce qui peut se passer ailleurs, aujourd'hui, au Québec, ça pourrait être intéressant d'aborder comment est-ce que ça se passe. Bon, toi, t'as grandi en région.
Oui.
Tu disais, t'as grandi à... De quoi ça peut avoir l'air de grandir à Alma, tu dis?
Oui. Alma, dans les années 80-90, c'était une ville de quelques 25 000 habitants. Aujourd'hui, c'est autour de 30 000. C'était une communauté où... comme dans la plupart des communautés en région, la xénophobie était beaucoup plus grande que le racisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te reconnaît comme quelqu'un de la place, quelqu'un de la communauté, ça va beaucoup mieux se passer, mais le qualificatif d'étranger, selon moi, est beaucoup plus dangereux à porter ou beaucoup plus négatif à porter que le statut de personne noire qui vit à Alma. Je faisais partie des quelques personnes noires qui habitaient à Alma à l'époque. Puis je peux pas dire que j'ai eu une enfance difficile liée au racisme. Peut-être à part à l'école secondaire, à l'école primaire. Au primaire, c'est là véritablement que j'ai été plus victime de railleries puis d'insultes à caractère raciste. Il m'est arrivé souvent d'avoir à remettre des gens à leur place et des fois même à me battre physiquement avec des gens qui m'écœuraient, qui m'agaçaient parce que j'étais noir. Au secondaire, je pensais que ça allait être pire, mais au contraire, ça s'est beaucoup, beaucoup estompé. Au cégep aussi.
Ils prennent des bonnes manières en chemin.
Oui, c'est une chose qu'on constate lorsqu'on vieillit, c'est que le racisme devient beaucoup plus hypocrite plus on avance en âge et qu'on côtoie des gens qui sont avancés en âge. Donc, les gens vont beaucoup plus dissimuler leurs opinions et leurs sentiments racistes. Mais ça demeure, c'est quelque chose qu'on va sentir à certains moments, mais ce serait mentir dire que j'ai été victime d'un racisme là éhonté qui m'a brisé ma vie et brisé mon moral.
On parle souvent plus de racisme par rapport aux Autochtones, notamment.
Oui.
Que ce soit pas, bon, je connais plus la situation en Abitibi, ouais, mais là, sa côte nord. Mais...
D'ailleurs, ce qui était assez paradoxal, c'est que les gens de mon entourage voulaient moi-même m'intégrer à cette forme de racisme-là. En tant que personne noire, on voulait que. Ben, je vous dis,
toi aussi tu participes.
Ben c'est ça, c'est que je me rappelle d'un feu avec des jeunes avec qui je jouais au baseball, puis tout le monde parlait contre les Indiens, tout le monde parlait contre les Autochtones, puis j'étais presque tenté de moi aussi dire des choses négatives contre les Autochtones parce que c'était une façon de faire partie de la gang, tu sais. J'étais noir, mais on disait pas des choses négatives sur les noirs, on m'acceptait en tant que noir. Fait qu'une façon encore plus grande de m'intégrer, c'est arrêter de dire, ben, moi aussi, je les aime pas, les autochtones.
Les maudits indiens. Et quand on... ça c'est au lac. Quand on arrive à Québec, est-ce que la situation change ou...
Je suis arrivé à Québec.
C'est relativement blanc aussi, c'est comme pas mal la même chose dans le fond.
Je suis arrivé à Québec, j'avais 20 ans passé, puis j'ai vécu dans un microcosme 2-3 ans qui était la cité universitaire, qui était l'endroit le plus multiculturel que j'avais visité dans ma vie. J'étais pas quelqu'un qui avait voyagé beaucoup, j'ai pas voyagé non plus beaucoup depuis. Quand je suis arrivé à l'Université Laval, c'est la première fois que, au quotidien, je côtoyais des gens qui étaient d'origine africaine, qui venaient des Amériques. J'étais dans un espèce de microcosme assez multiculturel. Donc, moi, quand je suis arrivé à Québec, j'ai côtoyé le multiculturalisme comme je l'avais jamais côtoyé auparavant. Puis j'ai pas vraiment eu des problèmes liés au racisme en arrivant à Québec. C'est un petit peu plus à partir du moment où j'ai commencé à militer et à me familiariser avec les radios et les personnalités réactionnaires de la région que là j'ai pris conscience qu'il y avait un racisme qui était présent à Québec, là, puis beaucoup plus fort que je pensais.
Oui, ben je. Par rapport à ça, je me souviens d'un incident, ben justement, comme militant, je me souviens plus de quoi exactement l'action, mais vous aviez mené une action par rapport au recteur, ou au processus électoral, au rectorat, ça s'était ramassé.
Non, c'est ça, c'est une autre histoire.
C'est arrivé deux fois,
Non, c'est que ce qui s'est passé, c'était en 99, le ministre de l'Éducation de l'époque, François Legault, ministre Pékis, venait inaugurer les rénovations du pavillon Palais-Prince à l'Université Laval, et ce pavillon-là avait été rénové grâce à des fonds privés. C'était dans l'espèce de début du débat puis des luttes sur l'intrusion du privé dans l'éducation, etc., etc. Puis, nous, on était en pleine campagne pour empêcher l'université de signer une entente d'exclusivité avec Coca-Cola ou PepsiCo.
C'est la guerre sur les pétillères.
C'est ça. Donc, qu'un ministre vienne faire l'inauguration d'un pavillon sur la cité universitaire, un pavillon qui a été rénové grâce à l'argent du privé, ben, on trouvait ça scandaleux, donc on s'est pointé. Et puis, le geste d'éclat qui était censé avoir lieu, c'est que durant la conférence de presse, j'étais censé aller vers le ministre Legault, lui remettre une bouteille de Pepsi, et lui dire, regarde, on n'en veut pas du privé. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est déroulé. J'ai été empoigné par les gardes de sécurité, il y a eu une mêlée, et ça a été photographié par les photographes, et ça s'est retrouvé dans les médias. Et le lendemain, ben Jeff Filion, dans son émission, en voyant ça, a dit, bon, voyez, là, regardez ce qui s'est passé, là, le noir là qui est allé porter une bouteille de Pepsi à François Legault. Et il a commencé à spéculer, disant que j'étais probablement un étudiant étranger, fils de prince africain, venu étudier au Québec, sous le bras des contribuables.
Lui, ça n'était jamais passé par la tête que tu venais du même patelin que lui, finalement.
Non, c'est la grande ironie de l'histoire, je dirais. Parce que Jeff Filion, ses émissions stupides, je les écoutais dans l'autobus scolaire quand j'étais, je pense, fin du primaire, début du secondaire. Parce que lui, il était un petit animateur minable. Il est toujours minable, mais là, il était un petit animateur minable d'une radio de Chicoutimi. Mais malheureusement, c'était la radio que notre chauffeur de bus mettait.
Donc, c'est ça. D'ailleurs, vous nous en avez envoyé quelques-uns comme ça.
Oui, malheureusement, je viens d'une région qui a produit... trois crétins de l'univers radiophonique. Louis Champagne, le mentor des deux.
Lui, vous l'avez gardé.
Ouais, lui, heureusement ou malheureusement, on l'a gardé. Ensuite, ça a été Jeff Filion et maintenant Sylvain Bouchard.
Wow. Oui, Sylvain Bouchard qui est le nouveau numéro un, ou en tout cas l'émule de l'autre à quel Québec honneur. En ce moment. Quel honneur, effectivement. Quel honneur. Des gens qu'on entend régulièrement dans notre chronique populiste. Donc, arrivé à Québec et cette affaire-là, tout ça, au niveau militant, est-ce que ça amène quelque chose de particulier? Est-ce que ça fait vivre des choses particulières, là?
Oui et non. Je dirais que dans le milieu militant, je me suis jamais véritablement perçu comme étant différent des autres. Probablement parce que dans les groupes de gauche, la plupart du temps libertaires que je me suis, dans lesquels je me suis impliqué, ça a été les lieux où j'ai perçu le moins de racisme, j'ai vécu le moins de racisme. À vrai dire, j'ai pas vraiment d'événements ou d'incidents racistes. J'ai pas mémoire d'aucun incident raciste qui me soit arrivé là, au sein des groupes militants. Je fais beaucoup de sport, j'étais impliqué dans pas mal d'affaires, puis je dirais que c'est dans le militantisme de gauche que j'ai le moins vécu le racisme. Puis ça, je peux pas vraiment faire référence à un épisode raciste.
Oui, mais ce que je voulais ramener, je me suis probablement mal exprimé, c'est au niveau de la perspective politique. Est-ce que c'est quelque chose qui informe la perspective politique, qui change des choses à ce niveau-là ou pas du tout? J'en ai aucune idée. Dans le fond, je pose la question pour ça.
Oui, je dirais que dans mon cas à moi, je dirais oui, mais pas tant que ça, puisque ayant été adopté, j'étais complètement coupé du bagage culturel qui normalement aurait été le mien si j'aurais été un enfant dans une famille immigrante. Les personnes noires que je connais, la plupart du temps, ils ont grandi au sein d'une famille haïtienne ou africaine, donc ils ont une espèce de regard culturel différent. Moi, j'ai véritablement grandi dans la culture québécoise. Donc, cette espèce de distance-là face à la culture québécoise, je l'ai moins. Par contre, il est clair qu'au niveau politique, très tôt, j'ai été orienté vers les trucs à caractère anticolonial, anti-impérialiste. À 14, 15 ou 16 ans, si j'avais eu à m'impliquer dans un groupe, ça aurait été certainement dans quelque chose de très, très, très anti-impérialiste, très anti-américain, probablement nationaliste à la Black Panthers.
Puis aujourd'hui, une perspective anticoloniale, on a vu, il y a tout eu un débat là, autour de la question des plans d'Abraham. Là,
ouais.
Puis souvent, il y a deux choses qui viennent quand on parle d'anticolonialisme. Soit justement le nationaliste québécois qui, Falardeau, mettons, qui vient puis qui parle de colonialisme et tout. Ou alors, il y a des perspectives dans les milieux radicaux d'anticolonialisme qui vont le prendre dans une perspective antiraciste, puis justement anti-impérialiste, qui parfois va être inspiré par des mouvements de libération nationale ML, d'autres fois pas. Mais bon, on peut penser, entre autres, quand No One Is Legal et tout bloquer l'Empire est venu à Québec le 3 juillet, là, il se situait dans une perspective anticolonialiste. Il joue aussi sur les... Donc, aujourd'hui, l'anticolonialisme, ça s'exprime comment? Qu'est-ce qui...
Difficile à dire, parce que pour avoir milité dans Guerre à la guerre cet été et avoir été au beau milieu de débats sur justement qu'est-ce que c'est que l'anticolonialisme, j'aurais vraiment de la difficulté à apporter une réponse précise en ce moment comment se manifesterait une lutte anticoloniale aujourd'hui en 2009. Surtout au Québec, la situation du Québec est particulière parce que la population québécoise a vécu une forme de colonialisme, a vécu une forme d'impérialisme, mais qui est en aucun cas comparable à ce que les populations du Sud ont vécu. Donc, on peut pas véritablement au Québec prendre le flambeau anticolonial, où on peut pas vraiment être les porte-étendards par excellence de cette cause-là, étant donné que on était aussi complice dans le phénomène colonial. À ce que je sache, le Québec faisant partie du Canada et le Canada faisant partie du G8 et tout ça, on bénéficie de l'impérialisme occidental.
Nous, on est la 26e économie mondiale, je pense, quelque chose comme ça.
Oui, donc c'est je dirais que c'est un peu comme position. C'est difficile après ça d'avoir une ligne très, très, très tranchée et cohérente sur quel doit être l'avenir et les priorités de la lutte anticoloniale.
On est assis sur la clôture qui forme la ligne d'habitude.
Oui.
Tantôt, en dehors des ondes, tu disais que tu avais participé à une des premières rencontres Une des premières rencontres des caucus.
C'est Anarchist People of Color.
Ouais, c'est ça. C'est un mouvement qui était en émergence pendant un certain temps au Canada anglo, aux États-Unis. Je sais pas, en ce moment, il y a des blogs, il y a des trucs qui existent. Qu'est-ce que tu penses de ce type de mouvement-là?
Je dirais que au Québec, ça n'a pas beaucoup d'avenir, je pense. C'est sûr aux États-Unis, probablement que je dirais d'autres choses. Dans la mesure où, dans beaucoup de communautés afro-américaines des États-Unis, il y a des quartiers qui sont majoritairement noirs, et puis il y a une espèce d'identité, de conscience sociale noire qui peut se développer. Je pense que ça a beaucoup plus d'avenir là-bas. Tandis qu'ici, je pense que le défi est peut-être plus d'intégrer les communautés immigrantes dans des luttes qui sont un petit peu plus fédératives. Je suis un peu tiraillé aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que je trouve que ça a une légitimité, ce genre de mouvement-là, puisque c'est vrai que la voix des Noirs, la voix des communautés noires, même des fois dans le mouvement anarchiste ou dans le mouvement anticapitaliste, ben est un peu sous-représentée. Donc, je pense que c'est bon qu'il y ait des groupes qui poussent dans cette direction-là, mais moi, en tant que militant, en tant qu'activiste, j'ai toujours eu la difficulté avec des groupes construits sur une cause particulière. J'ai toujours voulu davantage faire partie de groupes qui avaient des missions beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges que la cause des Noirs, la cause strictement environnementale. J'ai toujours rêvé d'organisations, peu importe qu'elles soient nombreuses ou non, qui ont un volet assez large.
Pour terminer, pour conclure, tu parles de lutte, d'enjeux fédératifs dans la région de Québec. D'après toi, as-tu des idées sur des enjeux qui pourraient être fédérateurs dans un avenir rapproché puis qui nous permettraient d'embrasser un peu plus large que ce qu'on embrasse aujourd'hui qui, disons-le, c'est beaucoup des jeunes des quartiers centraux?
Ben c'est assez embêtant parce que on n'est pas dans une période où la contestation a le vent dans les voiles. Faut se l'avouer, on semble être dans une espèce de creux. Puis c'est d'autant plus important que les gens qui sont actifs demeurent actifs justement parce qu'on est dans un creux. Mais dans la mesure où le vent semble pas souffler dans la bonne direction, c'est difficile de dire dans quelle direction faudrait aller. Si je prends un exemple de quelques années, toute la mobilisation qu'il y a eu autour, qu'il y a eu contre le gouvernement Charest, j'ai trouvé que pour une rare fois, il y a des connexions qui se faisaient entre différents groupes de société. C'était l'un des rares moments dans mes années de militantisme que, au party de Noël, j'ai jasé avec des oncles puis des tantes qui me disaient « Ouais, Charest, il faut le faire tomber. » Tu sais, j'avais comme l'impression d'être dans une espèce de communion avec du monde qui, en général, sortent pas dans la rue, puis manifestent pas, puis contestent pas, mais qui, là, sentent bien que ce qu'il y a au-dessus d'eux, ça marche pas, puis il faut des changements. T'sais. Fait que ce genre de lutte-là peut-être pourrait amener des débouchés, mais ce serait mentir dire que j'ai quelque chose à proposer tout de suite et maintenant.
On verra ce qui va se poursuivre avec la crise de dépôt et de placement et la crise économique qui s'en vient. Ben, merci.
De rien.
Et nous, on a une pièce musicale ou on n'a pas de pièce musicale parce que je suis allé trop loin?
Mais non, on a une pièce musicale. Il nous reste encore 5-7 minutes. Pour une fois, t'as été sage. Non, on va continuer avec un indicatif surprise suivi d'une vieille pièce de I Am.
Il y a des nouveaux indicatifs puis il y a personne qui nous l'a dit?
Non, mais c'est une surprise pour les auditeurs et auditrices.
Dominique Zodi, oration et miam. Dominus Vobiscom, et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez, voix de fer.
Voilà, ben c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
De France à moi commence par un génocide, ces pensées maussades, romans cherche une revanche impossible. Fils de la Bible, blague, blague au mic en habit bleu. Nous on maquille ces putains de feuilles immaculées en lit bleu.
Ils brandissent la Bible
et mettent Jésus à tort de l'intox.
Ils nous ciblent
avec leur rabbin comme du flitoff. Moi je revendique ma différence dans ce pays merdique.
Doucement,
hein, doucement, t'inquiète, on fait des sous sous le manteau car tous mentent.
Comment leur faire croire?
C'est capable des cancres, moi je manque là.
Mon encre là,
base des cancres là. Mon âme strié par les vicissitudes. Classe encore froid d'habitude, noir de bitume.
La vie c'est le vif à l'étude.
Ouais, vu donc, y'a pas de frontières, c'est géant dans le néant. Les néons flash, amené en galère, en bas, c'est un fion béant. Le recueil de notre juste lutte, ainsi Dieu l'a voulu.
L'Égyptien,
et nous, ainsi Dieu.
Que se remplit de sale face et gise là.
Rise là,
d'un jour perçu, gise et mise là.
De tous ces chiens, cri vive à sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on berce.
Les potenza. Mike Liberta, Mike Liberta.
La vie est mal faite,
et pour beaucoup,
elle finit liberta.
Que se remplit de sale face et gise là.
Rise là,
d'un jour perçu, gise et mise là.
L'indifférence prie, les conséquences qui défient ma fille, l'insouciance lie, Mars by night. Mike branche, je débarque pas d'un boat sur buton note, sur orbite, les écrits mes notes.
Fais coup,
Independenza pour nos troupes au complet, propageant le plastique dans les foyers, mieux qu'un amas. Exempté, devoir d'aller
dans l'allée
où je devais être, je trouve mon chemin, je tombe sur terre une comète allée. Mes motifs sont bien meilleurs que mes méthodes.
Ton tube cathodique allume le
blague, l'histoire apologie.
God, fantasma, algorithme, ma prod mieux qu'une drogue euphorique.
Dans les tiens,
sur nos sens, porte,
vas-y,
qu'on braque les faisceaux
sur nous.
Chacun détient son réseau.
Chez vous,
trop dans le vice, les grosses vis beaux. Le monde s'agresse, se dresse,
régresse.
Dresse ton bilan, ce qu'ils pondent ici, c'est pour leur adresse, mec.
Ces chiens crient viva sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on y perce.
Les potenza.
Mike Liberta, Mike Liberta.
La vie est mal faite,
et pour beaucoup,
elle finit berda.
Que se remplit de sales principes, gise là.
Grise là.
Verdure persiste,
vise et mise là.
Que tous ces chiens crient viva sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on y perce.
Les potenza.
Regarde ces lumières étranges oranges. Tu crois que c'est le pays qui change? Franchis le tunnel de l'estaté.
Écoute même plus en France.
Pense qu'ici plus qu'ailleurs, la différence est une valeur. L'indépendance dans toute son ampleur.
Rien à voir avec la chaleur.
Mais ça bouge dans tous les sens. Des gens proscrits, pas de leur chance. Ose, à force de rien avoir.
Tu fais grande chose.
Avec des bouts de gré. Ciel toujours sûr, mais pas assez dans la tête.
Ça devient de plus en plus dur.
Y'a un képi pour une casquette. Les cœurs battent sans cœur. Les styles enseignent à flot. Trop de jeunes s'ouvrent les veines parce que trop de mots. Alors on pose des mots sur une démo.
On vient, oh.
La sale race n'est pas prête pour le tombeau. Les bras tombent au combat. Vois les balcons plein de drapeaux. On est dans le pot de
rage. Rien, ça file la rage.
Même quand les cages servent comme des corsets. Là, c'est le corps sonne le jour annoncé. Et là,
on va se corser.
Trop pressurisé. La scission guette sur Sion là. Rien de sévit dans le maquis au nom de l'indépendenza.
Mike Liberta, Mike Liberta.
Et pour beaucoup,
que se remplit de sales principes, gise là,
grise là,
d'argent perçu,
gise et mise là,
que tous ces chiens crient vive à sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on y perce,
des potenza.
Mike Liberta, Mike Liberta,
la vie est mal faite,
et pour beaucoup,
l'indépendenza.
Sur ces belles paroles, c'était Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. C'est, ben, je suis Nicolas, il y avait...
Jeannie.
Et Maxime aussi.
Voilà.
Et Farouko qui était là. On a eu une bonne émission. Si jamais c'est pas suffisant, hein, pas assez de nouvelles, vous en voulez plus, ben, il y a toujours notre blog. Voix de Fait avec un X et un S point blogspot.com.
Ouais, et la prochaine, ça fait longtemps que je me fais demander du oulala. J'étais chercher les originaux.
Oh, mais sinon, évidemment, il y a notre blog, mais il y a aussi ces cahiers. Vous pouvez continuer d'écouter toute la semaine.
Toute la semaine.
88.3 Québec. You. Bonne semaine.
Because in a war, in a battle which lasts between 3 to 5 minutes, that's all. You see nothing but smoke.
Le sang nous monte à la tête, s'éclatait plein. ça s'adapte, se jeter dans les flammes, pouvoir enfin voir le monde par le canon d'un 16. Et si je saute sur le lit, twist à co-ex et fille, saisir enfin ma chance. Twist à co-ex et fille, tout problème en amour. Twist à co-ex et fille, vous mourrez pour la France. Twist à co-ex et fille. C'est ma vie pour la paix du monde. Et si je saute sur une île, twist à co-exité, je suis enfin ma chance. Twist à co-exité, te prouver mon amour. Twist à co-exité, vous mourrez pour la France. Twist à co-exité, twist, twist, twist à co-exité, twist, twist, twist à co-exité, twist à, twist à, twist à co-exité, twist à, twist à, twist à co-exité.